de la question.
D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation pour nous intéresser aux chauves-souris. Et pas seulement comme réservoir supposé des virus du Covid ou d'Ebola, mais aussi et surtout parce que ces étranges mammifères volants qui vivent à l'envers, à tous les sens du terme, la tête en bas, la nuit et au radar, ont toujours fasciné notre humanité, occupant une place à part dans de nombreuses cultures. Animaux totémiques, des aborigènes d'Australie, esprits rebelles au Sahel, revivifiants aux Philippines ou vampires en Europe. Les chauves-souris semblent en effet transgresser toutes nos frontières symboliques et physiologiques, de quoi passionner aussi les chercheurs de toutes disciplines, à commencer par les naturalistes, mais aussi les écologues, les microbiologistes et même les anthropologues. Avec le changement climatique et la destruction de leurs habitats, les chauves-souris en effet se rapprochent de nous, on le sait trop bien, pour le pire, les risques sanitaires, les pandémies, les zoonoses et l'extinction de leurs espèces, mais aussi pour le meilleur, comme nous allons le découvrir avec nos invités, les anthropologues Frédéric Keck et Arnaud Morvan, tous deux ont dirigé un ouvrage collectif, Les chauves-souris, rencontres aux frontières entre les espèces, aux éditions du CNRS. Autour de la question jusqu'où nous entraînerons les chauves-souris, bienvenue entre réalité et imaginaire, avec cet extrait d'un conte initiatique Peul, rapporté par Amadou Empateba, s'il vous plaît, et relu sur les ondes de RFI par mon confrère Sayouba Traoré.
Je suis mammifère par mes dents et oiseau par mes ailes. Suspendu par les pieds, je repose dans les branches. La lumière du jour m'aveugle et l'obscurité de la nuit m'éclaire. C'est un conte qu'on retrouve dans presque toutes les civilisations au Sahel, parce que c'est un être vivant inclassable. En même temps, on ne sait pas si les chiens ou oiseaux, parce qu'il est chien par la tête, oiseau par les ailes. Il est carnivore et fructivore. Et il vit la nuit et dort le jour. Et mieux, il dort suspendu, la tête en bas. Donc c'est vraiment un être bizarre qui se trouve entre plusieurs mondes.
Nous y voilà donc, entre plusieurs mondes, au moins entre deux mondes, à la rencontre des chauves-souris aux frontières, donc entre les espèces, pour reprendre le titre de l'ouvrage collectif qui vient de paraître aux éditions du CNRS et que vous avez co-dirigé, Frédéric Keck, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en direct en studio avec nous. Vous êtes anthropologue et philosophe, directeur du laboratoire d'anthropologie sociale, Collège de France, CNRS et EHESS. Dans la lignée de vos maîtres, hein, Claude Lévi-Strauss et Philippe Descola, vous vous intéressez, Frédéric Keck, au rapport entre humains et non-humains, à la frontière, hein, vous étudiez les relations entre humains et animaux à l'origine des zoonoses, que vous étudiez en tant qu'anthropologue, hein, pour tenter de les anticiper, de les prévenir, un peu visionnaire peut-être, ou alors simplement attentif. Vous êtes l'auteur, entre autres, Frédéric Keck, d'Un monde grippé, publié en 2010, et plus récemment des Sentinelles des épidémies, chasseurs de virus et observateurs d'oiseaux aux frontières de la Chine, dans lequel vous nous montrez comment ces oiseaux porteurs de grippe aviaire peuvent aussi se révéler comme sentinelles, nos alliés, hein, contre les futures pandémies. C'est aussi le cas avec les chauves-souris. Et autour de ce travail collectif qui a été commencé, alors je souligne tout de même parce que c'est important de le faire, commencé avant la pandémie de coronavirus, hein, dans un colloque en 2019 qui rassemblait tous les spécialistes en sciences naturelles, en sciences exactes, en sciences humaines et sociales des chauves-souris, dans l'idée quoi ? De mieux comprendre ces animaux, de les réhabiliter aussi parce qu'ils ont mauvaise réputation et encore plus aujourd'hui en pleine pandémie, Frédéric Keck.
Oui, donc moi je travaillais en tant qu'anthropologue sur les risques de transmission de pathogènes des animaux aux humains, donc les risques de zoonose. Donc d'abord sur la mise en place du principe de précaution après la crise de la vache folle en France. Ensuite, les techniques de préparation à une pandémie de grippe qui conduisait donc à surveiller les oiseaux et à en faire des sentinelles, effectivement, des mutations virales. Et en travaillant à Hong Kong, j'ai donc découvert tout ce qui a été fait après la crise du SRAS en 2003, dans la découverte que les chauves-souris constituent des réservoirs importants de pathogènes, donc notamment les coronavirus, mais aussi les virus Nipah, Hendra, et puis les virus de rage. Et ce qui m'a intéressé, c'est que bon, je connaissais bien les bovins, les oiseaux, c'est un univers qui m'a passionné, mais j'ai découvert à travers le travail des virologues la diversité des chauves-souris, qui est une raison de l'extraordinaire capacité qu'elles ont à contenir tous ces virus et éventuellement à nous les transmettre. Donc le terme de réservoir qui fait un peu peur, quand on est dans une optique de santé publique, de contrôle et d'anticipation des épidémies, moi en tant qu'anthropologue, je le vois plutôt comme un horizon pour la curiosité. Ça permet de découvrir effectivement des animaux que nous ne connaissons pas, qui se rapprochent de nous. Et c'est pour ça que nous avons voulu travailler non seulement avec des virologues, puisque effectivement ils ont produit beaucoup de connaissances récemment sur les chauves-souris, mais aussi avec des écologues qui étudient les chauves-souris dans leurs habitats et qui comprennent la diversité de cet ordre, puisque
c'est un ordre animal qui est extrêmement divers, qui est très étonnant. C'est les seuls mammifères volants. Il y en a sur tous les continents ou presque, une extrême variété de toutes les tailles. Certains disent qu'elles ressemblent à des chiens, d'autres à des souris. En fait, le mot chauve-souris vient d'une déformation du celte, qui disait chouette-souris, comme les chouettes. Elles sont chouettes, mais c'est comme les chouettes. La nuit, donc, c'est entre des oiseaux, mais non, ce sont des mammifères. Leurs ailes, ce sont leurs mains. C'est d'ailleurs le nom latin,
chiroptère. Oui.
Elles sont extrêmement étonnantes, extrêmement résistantes, extrêmement variées.
Oui, c'est un ordre qui compte 1400 espèces. On estime que un quart des espèces de mammifères sont des espèces de chauves-souris. Sur ces 1400 espèces, à peu près les deux tiers sont menacées d'ailleurs du fait de l'impact de l'espèce humaine sur leurs habitats. Mais par ailleurs, c'est un ordre difficile à observer parce que il est nocturne, il est souvent cavernicole. On ne va pas dans les lieux où elles habitent, sauf quand elles viennent effectivement dans nos greniers ou dans les arbres, souvent en Afrique, au milieu des villages. Donc c'est vrai que du point de vue de l'anthropologue, il y a une approche plus symbolique en disant, voilà, c'est Marie Douglas qui nous a montré que ce qui est sale, c'est ce qui n'est pas à sa place, c'est ce que nous n'arrivons pas à classer dans nos catégories. Donc effectivement, à la fois qui vole, mais qui allaite aussi, à la fois diurne et nocturne, la tête en bas, tous ces renversements de catégories nous troublent. Et en même temps, c'est pas seulement symbolique, c'est aussi des possibilités de relations que nous avons avec eux, notamment parce que nous partageons avec eux des parasites, des bactéries, des champignons, des virus.
Et qu'elles se montrent beaucoup plus résistantes que nous. Donc ça nous intéresse aussi pour la suite et pour ce qui nous intéresse aujourd'hui. Vous l'avez dit dans cet ouvrage, c'est vraiment effectivement des rencontres avec les chauves-souris sur tous les continents. Vous avez fait appel à des spécialistes en tout genre, de toutes disciplines et sur tous les continents. Nous sommes en ligne avec Arnaud Morvan qui a co-dirigé avec vous cet ouvrage. Bonjour Arnaud.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes également anthropologue, chercheur au laboratoire d'anthropologie sociale. Vous êtes en Australie que vous avez étudié, que vous êtes tombé sur les chauves-souris. De très nombreuses espèces vivent en Australie. Leurs liens avec les humains, avec les aborigènes d'Australie sont particulièrement intéressants. Au départ, vous étiez anthropologue auprès des aborigènes d'Australie. Et ce sont des animaux totémiques, c'est ça, des aborigènes d'Australie. Vous les avez découverts dans leur art d'abord.
Oui, d'abord, moi, initialement, j'ai travaillé sur les rituels et les représentations artistiques aborigènes. Et un petit peu par hasard, j'ai documenté une cérémonie liée à un ancêtre aux chauves-souris. Mais pour quelque chose d'assez différent, je ne travaillais pas spécialement sur les animaux au départ. Je travaillais avec les artistes qui étaient invités par le musée du Quai Branly pour participer à la construction du musée du Quai Branly. Et ces artistes, en fait, avaient un ancêtre chauve-souris, un totem, donc qu'ils considéraient comme en partie un de leurs un de leurs ancêtres comme une sorte de membre de la famille élargie. Et donc, ce qui m'intéressait, au-delà des aspects symboliques, c'est d'essayer de savoir aussi quel type de relation les aborigènes et les non-aborigènes aussi en Australie pouvaient entretenir avec les chauves-souris. Est-ce qu'on pouvait avoir des attachements avec ces animaux qui effectivement sont stigmatisés pour être des réservoirs de virus? Et en Australie, il y a un virus Hendra qui se transmet des chauves-souris aux chevaux et des chevaux aux humains et qui a donné une très mauvaise réputation aux chauves-souris à partir des années 90.
Donc là-bas aussi, en Australie aussi, elles ont une mauvaise réputation, ce qui n'est pas toujours le cas. J'ai envie de faire partager une question hein, qui nous est venue sur les réseaux sociaux par nos auditeurs sur le continent africain, Olusha Olishola. Il nous demande, c'est assez joli, je trouve qu'il résume toute la thématique de notre émission, pourquoi les chauves-souris sont diabolisées, pourquoi elles sont indispensables pour le bien-être, pour la biodiversité, et comment guérir des idées reçues sur cet animal. Je trouve la formule géniale, comment guérir des idées reçues sur les chauves-souris. Je ne sais pas qui veut répondre, Frédéric Keck.
Oui, on a un chapitre dans le livre donc, de Julie Marmet sur les préjugés que nous avons à l'égard des chauves-souris, donc, notamment le fait qu'elles pullulent, que quand elles volent, on les voit en banc, comme ça, avec des vols très, très erratiques. Et donc, on se dit, voilà, c'est un peu comme les lapins, elles sont très nombreuses, elles se reproduisent dans des grottes. Et en fait, Julie Marmet montre que non, elles ont des pratiques d'allaitement et de soins des petits qui sont très proches des nôtres. Hein. Donc, il faut effectivement déconstruire tous ces préjugés qui viennent du fait qu'on ne peut pas, enfin, qu'il est difficile d'observer les chauves-souris. Alors que...
et des préjugés qu'on a beaucoup en Occident, en Europe, hein, on les a rapprochés des vampires, alors que très peu d'espèces qui sont carnivores ou sucent le sang. Enfin, il y a des drôles leur aspect, peut-être leur proximité avec nous
donc, et leur étrangeté. Il y a trois espèces de chauves-souris qui sont vampires, hein, c'est-à-dire qu'elles grattent ou elles mordent les humains pour prendre leur sang. Mais les autres chauves-souris ont des régimes alimentaires très différents. Hein. Elles peuvent manger des poissons, des insectes. On a vraiment toute la représentation des régimes alimentaires dans les espèces de chauves-souris. Le vampire, en fait, c'est au XVIIIe siècle, c'est Buffon hein, qui a rapporté des cas d'Amérique, hein, effectivement. Et c'est d'ailleurs par la morsure du sang que les chauves-souris peuvent transmettre la rage. Donc il y a ces cas, effectivement, assez rares mais dangereux, pour lesquels il y a une surveillance. Mais ça ne doit surtout pas cacher la diversité. Ce n'est pas l'arbre qui doit cacher la forêt de l'ordre des chauves-souris.
C'est ça, l'ordre des chauves-souris, fascinant hein, dans cet ouvrage. Et on vous fera réagir aussi, Arnaud Morvan, là-dessus. Alors, fascinante à bien des aspects. Elles ont des drôles de têtes, des drôles d'habits. Habitude. Il y a le vétérinaire François Moutou qui nous le fait découvrir dans votre ouvrage. Elle marche au radar, hein, on ne l'a pas dit, ce radar naturel qui a fasciné et inspiré les Léonard de Vinci, mais pas seulement. Hein, ce sens de l'écolocation a inspiré nos radars, leurs ailes ont inspiré nos ailes d'avion. On pourrait dire que les chauves-souris, elles voient avec les oreilles, même si c'est un peu plus complexe que ça, le radar naturel. C'est le biologiste spécialiste français des chauves-souris, Jean-François Julien, du CESCO, hein, du Centre d'écologie et de conservation, qui nous explique comment et pourquoi les chauves-souris ont un bien meilleur sixième sens, si l'on peut dire écolocasens, que nous.
Cette fameuse écolocation, elles émettent leurs cris avec des cordes vocales, les mêmes que les nôtres, hein, ce sont des mammifères aussi, on retrouve ces similitudes à ce niveau-là. Elles ont des oreilles qui fonctionnent comme les nôtres, des structures analogues aux nôtres dans le cerveau pour analyser les sons, simplement elles le font bien mieux que nous. Je dis bien mieux et bien plus vite parce que ce qu'on ne sait pas souvent, c'est que les hommes sont capables d'écolocation. On s'en est rendu compte avec des non-voyants qui... inconsciemment
que les hommes sont capables de se servir
repérer
de l'écho.
Des grosses choses, pas un moustique, certainement pas, mais un mur, un arbre, etc. Et des non-voyants utilisent de façon inconsciente l'écho du bout de leur canne pour se repérer. On s'est rendu compte, il y a déjà des dizaines d'années, que certaines personnes donc, utilisaient l'écholocation. Et si on insonorise l'extrémité de leur canne avec un morceau de caoutchouc, elles sont désorientées. Donc on a cette capacité, simplement, à les pousser moins loin.
Bon, nous sommes moins forts hein, en écolocation que les chauves-souris, mais nous sommes capables d'écolocation. Ça a de quoi nous inspirer dans tous les domaines, Frédéric Keck. Dans le domaine de l'écolocation, ça nous a inspiré, mais pas seulement, aussi dans le domaine des savoirs traditionnels de tous les peuples qui vivent et qui côtoient les chauves-souris.
Oui, alors l'écolocation, ça a suscité une énigme presque philosophique qui est la question de savoir si on peut prendre le point de vue d'une chauve-souris, puisque la chauve-souris est aveugle et se repère par les sons. C'est un philosophe, Thomas Nagel, qui avait posé cette question pour comprendre les rapports entre l'âme et le corps. Est-ce qu'on peut le penser du point de vue d'une chauve-souris ? Alors, ce qu'on essaye de faire dans l'introduction du livre, c'est justement de décaler un peu par rapport à cette question de ces techniques qu'elles ont et que nous n'avons pas, et que nous pouvons effectivement apprendre d'elle, pour davantage essayer de voir le monde à travers le visage d'une chauve-souris, notamment parce qu'on a parlé des services écosystémiques qu'elles rendent, notamment la pollinisation. Et voilà, on montre une photo d'une chauve-souris avec le visage jaune, hein, plein de pollen qu'elle aurait récolté sur une fleur. Et puis aussi le visage blanc d'une chauve-souris atteinte par le syndrome du nez blanc, qui est un champignon qui infecte les chauves-souris d'Amérique du Nord, alors qu'il vient d'Europe où il n'affecte pas les chauves-souris. D'ailleurs, les chauves-souris ne peuvent plus dormir parce qu'elles se grattent et du coup elles meurent en très grand nombre dans les grottes. Et donc voilà, on essaie aussi d'imaginer, parce que ce n'est pas seulement ce que c'est que de se déplacer dans une grotte, mais aussi ce que c'est d'aller chercher de la nourriture, ce que c'est que dormir. Et donc prendre le point de vue de la chauve-souris, c'est un peu toutes ces dimensions d'habitation. Et pas seulement le côté un peu mathématique qui a été effectivement l'exploitation souvent militaire de l'écolocation.
Du radar à exploration, évidemment d'abord militaire. Arnaud Morvan, j'ai envie de vous faire réagir là-dessus parce que c'est complètement fascinant. Si on essaye de se mettre dans la peau d'une chauve-souris, alors déjà on est à l'envers, hein, on est de l'autre côté. Il y a des photos absolument magnifiques parce qu'il y en a qui sont un peu effrayantes, hein, il faut le dire. Il y en a d'autres qui sont mais trognonnes, mais c'est pas possible. Est-ce que justement, de l'autre côté du monde, en Australie, est-ce qu'on arrive un peu mieux peut-être à se mettre dans la peau d'une chauve-souris ou à écouter, à découvrir peut-être les savoirs des autres peuples qui, eux, arrivent peut-être mieux à se mettre dans la tête d'une chauve-souris ou à se mettre les chauves-souris de leur côté comme alliés.
Oui, alors il y a différents types de relations avec les chauves-souris en Australie. Donc les aborigènes, eux, ont l'habitude de vivre avec les chauves-souris depuis très longtemps. Ils sont sur le continent australien depuis au moins 40 000 ans, voire peut-être plus. Et donc, ils ont développé des relations très, très anciennes avec ces chauves-souris. Il faut dire aussi que les chauves-souris en Australie, ce sont ce qu'on appelle des renards volants. Donc, ce sont des grandes chauves-souris frugivores.
Des renards volants, parce qu'il y a un peu une tête de renard, un petit peu.
Ouais, c'est ça. Ça a tout à fait une tête de comme un petit chien ou un petit renard, pour certaines, avec des grands yeux, parce que ce sont des chauves-souris qui n'utilisent pas l'écolocation, c'est des chauves-souris frugivores, mais qui utilisent leurs yeux et qui ont une très bonne vision nocturne et qui donc se déplacent la nuit pour aller se nourrir de nectar ou de fruits.
Et en même temps, c'est comme ça qu'elles pollinisent.
Et c'est comme ça qu'elles pollinisent et puis qu'elles dispersent les graines et qui sont utilisées par les eucalyptus pour se reproduire. Donc oui, effectivement, les aborigènes vivent depuis très longtemps avec les chauves-souris comme avec beaucoup d'autres animaux australiens. Et donc eux ont développé une vision du monde où en fait on est à la fois relié à ses parents humains. Mais on a aussi des parents non humains, donc animaux, et en partie des chauves-souris. Donc certaines personnes héritent d'un totem chauve-souris et vont développer des relations particulières aux chauves-souris, de proximité, d'attachement et aussi de respect de certaines distances, en fait. Donc avec certains animaux et certains animaux qui peuvent être dangereux, on encadre culturellement ce qu'il est possible de faire avec ces animaux et ce qu'il n'est pas possible de faire. Donc il y a une question de respect, il y a aussi une question d'attachement, d'affection, qui se développe aussi d'ailleurs chez les non-aborigènes qui s'occupent des chauves-souris, donc des naturalistes qui viennent en aide aux chauves-souris blessées et qui vont les soigner dans les refuges, en fait, en Australie. Et donc ces gens, justement, en termes de relations proches aux chauves-souris, recueillent parfois des petits bébés, des orphelins chauves-souris, et les élèvent pendant plusieurs mois avant de pouvoir les relâcher. Donc, en fait, ils ont des attitudes corporelles assez proches des femelles chauves-souris qui s'occupent de leur bébé et leur apprennent même à voler, en fait.
Ah, c'est fou, c'est-à-dire que notre proximité et en même temps donc le respect, la distance qu'il faut garder avec ces animaux sauvages qui peuvent devenir plus familiers autour de la question jusqu'où nous entraîneront les chauves-souris. Elles inspirent aussi particulièrement les esprits rebelles sur un autre coin du globe, au sud toujours, sur le continent africain. On continue de s'interroger bien sûr avec vous, Arnaud Morvan et Frédéric Keck, à l'écoute cette fois-ci du reggae-man Ras Goody Brown de Côte d'Ivoire. Et son morceau Chauve-souris qui en dit plus long qu'il n'y paraît, à écouter tout de suite sur RFI.
Tu te demandes en comment que les chauves-souris ne dorment pas au plateau mais vers le plateau. Et qu'avant 5 heures du matin, elle retourne au plateau pour se ranger en lot. Tu te demandes, mais pourquoi est-ce que les chauves-souris la nuit ne dorment pas au plateau, mais vers Bingerville. Et qu'avant 5 heures du matin, elle retourne au plateau pour se ranger en lot. Tout juste une simple interrogation, boy. Rude boy. Elle n'a pas besoin d'être justifiée. Non, c'est juste une simple interrogation, jeune homme. Toi qui habites ma cité, elle n'a pas besoin d'être justifiée. T'as des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Que la propreté, c'est ce que cela signifie, tel que s'entassent toutes les ordures. La propreté, c'est ce que ça signifie, afin que l'on puisse respirer les tout purs. La propreté, c'est ce que ça signifie, tel que s'envole toutes les poussières. La propreté, c'est ce que cela signifie, afin que s'éloigne de nous toutes nos misères. Tu te demandes, mais pourquoi est-ce que les chauves-souris ne dorment pas au plateau, mais vers Bingerville. Et qu'avant 5 heures du matin, elles retournent au plateau se ranger en eau. Les caniveaux bouchés, les égouts bouchés, aucune issue autour de nous pour nos os usagés. Je sens pas accusé, je viens juste de réaliser que les moutes cessées pour plus nous paralyser. Regarde comment est-ce qu'il dort, c'est une mouche qui pique son corps. Ça pique lentement, on verra qu'il verra tout flou. Alors man, ne sois pas fou, même si t'as pas les sous. Cleanness, propreté, que cela soit partout. Et tu te demandes, et tu te demandes, et ça te demande. Les piques d'insectes, les piques de moustiques.
Ras Goody Brown et ses chauves-souris qui ne dorment pas sur le plateau d'Abidjan, sur RFI, autour de la question jusqu'où nous entraîneront les chauves-souris, ces mammifères étranges, mammifères volants qui ne sont pas que des réservoirs à virus ou qui, en tout cas, ont de quoi nous fasciner, nous intéresser. Elles fascinent depuis toujours et partout les humains. Chauves-souris rencontre aux frontières entre les espèces, c'est le titre de l'ouvrage collectif dirigé par nos invités Frédéric Keck et Arnaud Morvan. On va s'arrêter maintenant sur ces esprits rebelles. C'est comme ça que sont considérées les chauves-souris dans plusieurs régions d'Afrique subsaharienne. On écoutait en début d'émission l'extrait du conte Peul raconté par Amadou Empateba, cité par l'anthropologue Michel Cross dans votre ouvrage collectif. Michel Cross est donc anthropologue de la santé, professeur à l'université Lumière Lyon 2. Son terrain d'étude au Burkina Faso est en pays Lobi. Elle tient d'ailleurs à ce que l'on mentionne son nom d'initiation. Donc Michel Cross s'appelle aussi Nira Buruna. Elle tient également à saluer ce que nous faisons sur les ondes de RFI, les devins guérisseurs qui ont partagé avec elle tous les mythes liés aux chauves-souris dans ce chapitre, l'esprit rebelle des chauves-souris en pays Lobi au Burkina Faso. Michel Cross est au micro de Marjorie Bertin qui lui a demandé précisément pourquoi les chauves-souris étaient considérées comme des esprits rebelles.
Ce qui les a surtout marqués, c'est le fait que tout simplement elles se suspendent constamment par le bas et qu'elles s'animent que la nuit. Il l'explique par des mythes et on m'a conté donc plusieurs versions d'un même mythe. Alors on est donc dans un univers donc animiste avec un dieu ciel assez proche des humains qui a beaucoup de soucis et sa mère est malade, très très malade. Et à ce moment-là, dieu ciel ne peut pas tout. Il va voir lui-même un devin guérisseur, une fourmi en l'occurrence, mais parfois c'est aussi un caméléon. Et il consulte. Ses fétiches lui disent, bah, si tu trouves un carité, ta maman va guérir. Mais c'est difficile. Seine, les carrières sont des arbres très hauts. Et puis on m'explique aussi que Dieu ciel, à l'époque, il était assez bas. Il ne peut pas arriver au sommet des carités. Donc du coup, il a l'idée d'aller voir une de ses bonnes amies, à savoir la chauve-souris, et il demande donc à la chauve-souris d'aller chercher ce fameux fruit de carité. Bah, la chauve-souris va donc aider Dieu, et elle part chercher les carités. Dieu fait son propre médicament, et sa maman est effectivement guérie. Passe le temps, et là, la maman de chauve-souris tombe à son tour malade. Du coup, la chauve-souris va également voir un propre devin guérisseur, donc fourmi ou caméléon. Et puis là, les fétiches lui disent que la chauve-souris, en fait, doit aller voir Tangba, donc le dieu ciel, et lui demander le soleil. Et avec les rayons solaires, sa maman va guérir. Et là, la chauve-souris part effectivement donc à la rencontre de Dieu, et elle demande d'envoyer le soleil. Sauf que Dieu envoie un grand froid. Et la maman de chauve-souris meurt. Donc, évidemment, ça ne va pas, parce que c'est quand même chauve-souris qui a sauvé la mère de Dieu. Et quand sa propre mère tombe malade, Dieu ciel fait l'indifférent. Chauve-souris, évidemment, est, on peut dire, furax. Et elle décide que puisque c'est comme ça, elle ne regardera plus jamais donc Dieu ciel. Et elle décide donc de ne s'animer qu'à la nuit tombée, et puis de garder cette espèce de position donc bien caractéristique qui fait qu'elle s'accroche aux branches des arbres, aux parois des cavernes, aux poutres, donc des pièces sombres, toujours les yeux face au sol. Et en fait, enfin, les deux vieux devins guérisseurs avec lesquels j'ai travaillé, au Kévré Poda, Agbomankora, Liouté Kambiré, Agnanisero, Konkile Poda, Agbomankora, m'ont expliqué que de cette manière-là, la chauve-souris insulte Dieu en disant, voilà, tu n'as pas sauvé ma mère, eh bien, à mon tour, c'est fini, je te regarde plus. Et moi, je t'insulte aussi parce que, effectivement, je te montre mon derrière en permanence.
Regarde ces mythes, Michel Cross, les populations, comment est-ce qu'elles perçoivent les chauves-souris?
Alors ça va dépendre des chauves-souris. Il y a les grosses frugivores, les noires, les rouges, qui sont généralement, dès lors qu'elles sont en pleine brousse et dans des endroits que l'on dit plus ou moins donc sacrés, des papouparas pour les lobbies, on n'y touche pas. Mais si elles sont en dehors de ces endroits particuliers, on peut les tuer et on les mange. Mais par contre, pour les petites, c'est tout à fait différent, parce que les petites, en fait, elles trouvent refuge dans les chambres des esprits. Ces chambres des esprits sont très très obscures. Eh bien, le devin explique qu'il voit, dans la nuit, avec notamment l'aide de ces fameux animaux particuliers que, pour reprendre l'expression donc d'Amadou Mbata, l'obscurité donc de la nuit éclaire. Et il arrive également qu'on lève les sorts de certains malades à l'aide de chauves-souris. On va prendre une chauve-souris avec un sijumalaou, qui est une espèce de petit arbre avec plein de piquants. On balaye le corps de la personne qui est malade, et puis après on libère la chauve-souris, et la chauve-souris est censée prendre le mal avec elle, qu'elle élimine en brousse. Donc autrement dit, ce sont des auxiliaires absolument remarquables.
Auxiliaire, le mot est lancé, qui veut prolonger ce très bel éclairage de Michel Cross sur les esprits rebelles des chauves-souris en pays lobby burkinabé, recueilli par Marjorie Bertin.
Oui, c'est très joli ce conte lobby sur l'indifférence du dieu ciel, parce que, comme le remarque James Fairhead, qui est un anthropologue qui a travaillé en Guinée, donc dans la postface qu'il fait à notre livre, cette indifférence, c'est aussi celle de l'espèce humaine à l'égard des chauves-souris, notamment dans la modernité, où nous nous sommes éloignés de ces cavernes, où nous ne voyons plus tous les services que nous rendent les chauves-souris, et on en fait une créature un peu diabolique, voilà, le vampire, celui qui vient prendre notre sang, alors qu'effectivement, on a cohabité pendant très longtemps avec les chauves-souris, et on s'est détourné d'elles, et elles se sont détournées de nous, donc on est maintenant tête bêche, mais on peut à nouveau se regarder à travers les virus qu'elle nous envoie, et qui sont un peu comme le dit là aussi James Ferret, des piqûres de rappel. Puisque...
Des alertes et des piqûres de rappel, voilà. Sur notre éloignement, sur le changement climatique, sur la destruction des habitats, sur la préservation des espèces, parce qu'au fond, on se rapproche de plus en plus d'elles. Ce sont des piqûres de rappel, c'est une alerte très forte.
Oui, c'est une alerte qui est vraiment inscrite dans des matérialités qu'on partage, parce que comme le rappelle James Ferret, nos punaises de lit, en fait, on les retrouve comme des parasites chez les chauves-souris. Donc sans doute qu'il y a très longtemps dans l'évolution, on partageait ces parasites. Donc c'est vrai que ces signaux d'alerte, c'est vraiment, ça nous permet de mesurer toute la distance que nous avons prise par rapport à ces habitats très anciens que sont les cavernes.
Et puis, alors les chauves-souris, c'est ce que disait aussi Michel Cross, les chauves-souris, on les mange un peu partout. Arnaud Morvan, est-ce que, parce qu'il y a pas mal de chapitres hein, sur Madagascar, aux Philippines. Est-ce qu'en Australie, où vous avez travaillé, Arnaud Morvan, est-ce qu'on mange aussi les chauves-souris ?
Alors oui, en Australie et dans beaucoup d'autres régions, et notamment dans toute la région Asie-Pacifique, les chauves-souris, donc les frugivores, les grandes comme les petites, sont utilisées dans de nombreuses pratiques médicinales. Et donc ça, c'est assez intéressant en termes d'auxiliaire, justement, parce que on retrouve effectivement le soin par les chauves-souris.
Le soin par les chauves-souris, quoi, dans des sortes de soupes pour les
Par exemple, en Australie, justement, en documentant toutes les pratiques culturelles autour des chauves-souris et en lien avec le virus Hendra, je me suis rendu compte que les aborigènes non seulement n'avaient pas peur des chauves-souris, mais en fait les chassaient et les utilisaient depuis très longtemps et les consommaient sous forme de soupe pour se prévenir de maladies respiratoires et de problèmes asthmatiques. Ce qui était assez étonnant puisque c'est justement des problèmes respiratoires que provoquent certains types de virus, notamment le virus Hendra ou le SRAS.
C'était vraiment se servir de la résistance, de la force, de la capacité de résistance des chauves-souris, c'est ça, incorporer leur force quelque part.
Alors eux n'ont pas je n'ai pas encore réussi à recueillir... théorie exacte là-dessus. Les scientifiques sont partagés, on ne sait pas encore, mais en tout cas, c'est quand même une utilisation qui peut nous interroger et qui est partagée par de nombreux peuples. En Asie aussi, en Chine, il y a beaucoup de préparations à base de guano, par exemple, pour soigner de nombreuses affections.
Et justement, comment on fait là on est vraiment aux frontières, hein, passage de virus entre les espèces. Comment est-ce qu'on fait pour savoir est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on ne peut pas faire ce savoir hein, des peuples souvent traditionnels qu'ils avaient. Comment faire justement manger une soupe de chauve-souris, ça peut être excellent peut-être contre les virus respiratoires, puis ça peut aussi être très mauvais et puis être trop proche justement de ces espèces-là et faire passer les virus et les maladies émergentes comme la pandémie que nous vivons actuellement, Frédéric Keck.
Et on imagine qu'effectivement des savoirs empiriques au cours des siècles ont permis de savoir dans quelles conditions on pouvait manger ou ne pas manger une chauve-souris. Donc ça, c'est tous les tabous dont sont entourés les chauves-souris. Donc c'est dire quelles conditions on peut aller dans leur grotte, récupérer aussi leur guano. Mais c'est vrai que la microbiologie a changé aussi notre regard sur les chauves-souris, parce que on voit effectivement ces virus qu'on peut partager avec elles et qui n'affectent pas leur système immunitaire, alors que nous, ça nous affecte parce que elles supportent des températures du corps beaucoup plus élevées que le nôtre. Et puis aussi, on découvre maintenant que les chauves-souris ont un microbiote, donc tous ces microbes qui sont notamment dans le tube digestif, un microbiote beaucoup plus léger que celui des autres mammifères. Sans doute, ça leur permet
de voler,
assez comparable aux oiseaux. Mais ça peut expliquer, par exemple, qu'en Nouvelle-Guinée, on retire le tube digestif des chauves-souris avant de les manger. Donc effectivement, on est en train de découvrir au niveau vraiment microbiologique les raisons d'interdits ou de prescriptions très anciens.
D'où l'intérêt de ces études anthropologiques aux frontières hein, sur les relations entre humains et non humains. Vous avez rapporté de votre travail anthropologique auprès des aborigènes et du coup de ces recherches sur le lien entre le chauve-souris, les aborigènes et les autres habitants australiens. Vous avez ramené Arnaud Morvan et vous nous l'avez fait passer, merci, un chant aborigène. Vous avez parlé de totem chauve-souris. Je propose qu'on l'écoute parce que vous l'avez enregistré sur place en Australie auprès des aborigènes. On l'écoute et vous nous en dirait plus. Arnaud Morvan, que nous dit ce chant, ces percussions que vous avez recueillies en Australie?
Alors ce chant, il est réalisé par Phyllis Thomas, Bungin et Peggy Patrick, hein, qui sont deux femmes Kidja avec qui j'ai travaillé dans les années 2000. Et en fait, ce chant, il raconte le combat mythologique entre un ancêtre qui est associé aux chauves-souris et un autre ancêtre qui est associé aux crocodiles. Et en fait, il décrit un parcours entre un terrain cérémoniel sur lequel ces deux ancêtres se sont affrontés et une petite grotte dans laquelle s'est réfugiée la chauve-souris pour échapper à ses poursuivants. Et en fait, les aborigènes, les artistes avec qui je travaillais à l'époque, avaient choisi cette petite chauve-souris comme symbole un petit peu de leur façon d'échapper à la corruption du marché de l'art, en fait, pour s'organiser pour s'organiser sous forme de coopérative indépendante et qui échappait comme la petite chauve-souris à leurs ennemis et en fait ils sont arrivés à devenir l'un des groupes d'artistes les plus avec le plus qui ont rencontré le plus de succès en Australie dans les années 2000 et 2010.
Donc Phyllis Thomas et Peggy et Patrick et ce qui signifie aussi que il y a aussi une sorte d'esprit rebelle là du coup de la chauve-souris chez les aborigènes comme peut-être au Burkina Faso. Enfin il y a quelque chose de cet ordre-là de la protection de ces animaux si étranges, à la fois si proches et si différents de nous. On peut dire ça aussi, Arnaud Morvan ?
Oui, je pense qu'il y a un côté un peu insaisissable qui est peut-être lié au vol de la chauve-souris et qui a été repris comme symbole. Et effectivement, la chauve-souris, c'est à la fois insaisissable au niveau des catégories, donc comme on l'a dit, hein, c'est entre le mammifère, entre les oiseaux, mais c'est aussi insaisissable, même au niveau visuel, par leur vol un peu saccadé, la nuit, quand on ne voit pas très bien.
Et qui est parfois même plus efficace que le vol des oiseaux. Hein. Elles sont quand même assez fortes, ces chauves-souris. Alors, ces chauves-souris, dans cet ouvrage, on l'a dit, hein, elles sont aussi des réservoirs de virus, mais dans un beau sens. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, elles arrivent à résister, donc ça nous intéresse. Dans votre ouvrage, vous parlez évidemment des chauves-souris, réservoirs de virus, Ebola par exemple. Alors, on n'en est pas sûr. C'est-à-dire qu'on sait qu'elle résiste à des virus type Ebola, elle résiste à des virus type coronavirus et type Covid-19, mais on n'est pas sûr que ce soit par elle que les virus aient franchi la barrière des espèces pour nous atteindre, nous, Frédéric Keck.
Oui, pour Ebola, le rôle des chauves-souris comme réservoir est moins sûr que pour les coronavirus, parce qu'on a trouvé effectivement des traces d'Ebola, donc de la séroconversion chez quelques chauves-souris, mais ça ne veut pas dire effectivement que le virus circule chez les chauves-souris avant de se transmettre aux humains par des primates, par exemple. Et donc du coup, la chauve-souris, quand il y a eu des cas d'Ebola en Guinée récemment, a été un peu désignée comme une sorte de victime expiatoire ou de patient zéro, hein. Pour contrôler l'épidémie, alors qu'en fait c'est une chaîne alimentaire beaucoup plus longue et beaucoup plus complexe. De même, le syndrome respiratoire du Moyen-Orient où c'était les dromadaires qui transmettaient un coronavirus aux humains, sans doute par le lait. On a pensé que c'était les chauves-souris, mais on n'en a pas trouvé la preuve. Donc voilà, ce qui est bien documenté pour la rage, les virus Nipah, les coronavirus,
ça, c'est
beaucoup moins certain pour d'autres maladies comme Ebola. Oui.
C'est quoi ? Ce serait une sorte de, enfin pas de bouc émissaire, mais en tout cas on a une approche qui ne fonctionne pas très bien parce qu'il ne faut pas que ça nous fasse... les chauves-souris peuvent héberger des virus qui peuvent nous toucher, elles peuvent transmettre la rage, on l'a bien compris, et les coronavirus, mais enfin, elles ne sont pas coupables, elles sont victimes elles aussi, et surtout on est tous... sur le même bateau, c'est ça
Alors, elles sont victimes, effectivement, de ce qu'on appelle l'anthropocène, hein, c'est-à-dire l'impact de l'espèce humaine sur la planète, donc à travers la déforestation, la destruction de leurs habitats, mais aussi... l'éclairage nocturne qui modifie leur trajectoire, le changement climatique. Elles sont victimes et en ce sens, donc, si en se rapprochant de nous, elles nous envoient des virus auxquels on n'est pas habitué, c'est effectivement un signal d'alerte qu'il faut sans doute changer nos pratiques, moins consommer de la forêt, moins consommer de viande de brousse. Et en même temps, il faut rappeler que, par exemple, en Europe, on a très peu de contact avec les chauves-souris, hein. Une statistique citée dans le livre, c'est qu'il y a deux contacts par million de personnes en France et 100 par million au Québec. Et en Afrique, c'est sans doute un peu plus. Mais en Europe, on a peu de contacts avec les chauves-souris. Et pourtant, on a cet imaginaire de l'espèce diabolique qui vit en quelque sorte en marge ou en parallèle de la nôtre. Alors qu'effectivement, il faut raisonner au niveau planétaire sur toutes ces interdépendances avec elles.
Comment raisonner au niveau planétaire ? On continue de s'interroger tout en se laissant inspirer par les chauves-souris. Allez, on écoute la chanson de Thomas Fersen qui fait du bien, Une chauve-souris.
une chauve-souris aimait un parapluie, un grand parapluie noir découpé dans la nuit, par goût du désespoir, car tout glissait sur lui. Une chauve-souris aimait un parapluie, aimait un parapluie. Elle marchait au radar, le sommeil l'avait fui. Elle voulait se mettre à boire, se jeter au fond d'un puits. Une chauve-souris aimait un parapluie, un grand parapluie noir découpé dans la nuit, découpé dans la nuit. Sans jamais s'émouvoir pour cette chauve-souris, le grand parapluie noir sortait de son étui. Il prenait sous son aile soin d'une belle de nuit qui, boulevard Saint-Marcel, le nourrissait de pluie. Puis le grand accessoire se mit à voyager dans son bel habit noir, son habit noir de jet. Après les palabres pour faire un peu d'osier, un avaleur de sabre le mit dans son gosier, le mit dans son gosier.
Thomas Fersen sur RFI autour de la question jusqu'où nous entraînerons les chauves-souris. Nous sommes en compagnie des anthropologues Frédéric Keck et Arnaud Morvan qui ont dirigé l'ouvrage collectif magnifique et étonnant Chauves-souris, rencontre aux frontières entre les espèces, paru aux éditions du CNRS. C'est vraiment, oui, rencontre, frontières. Votre démarche, Frédéric Keck, la même que dans votre précédent ouvrage sur les sentinelles des épidémies, une démarche pour mieux comprendre les liens tissé entre humains et non-humains, pour le pire, mais aussi pour le meilleur. C'est tout le sens de la question que vous pose tout de suite le philosophe Frédéric Worms.
Bonjour Frédéric, j'espère que ça va. Donc ce travail sur les sentinelles du vivant qui continue, moi je me demande toujours cette cohabitation entre l'humain et l'animal. Qu'est-ce qu'il faut faire politiquement pour en tenir compte et en quoi donc la prévention des épidémies peut faire progresser cette sorte de cohabitation des vivants dans la planète, y compris jusqu'à la biodiversité. Il ne faudrait pas que cette peur du vivant qui transmet les maladies soit dangereuse. Comment renverser cette peur du vivant en un appui sur le vivant? Je pense que c'est ça, cette idée des sentinelles, Frédéric.
C'est bien ça, Frédéric Keck, hein. Renverser finalement notre peur face à ces virus qui franchissent la barrière des espèces à travers notamment les chauves-souris et d'autres.
Oui, la notion de sentinelle des pandémies, je l'ai rencontrée d'abord en travaillant sur ces techniques de préparation aux catastrophes, où effectivement, dans l'attente d'une menace imminente, on met en place des dispositifs de surveillance pour limiter les conséquences d'une catastrophe. Et par exemple, effectivement, dans des fermes où il peut y avoir de la grippe aviaire qui arrive, certaines volailles ne vont ne pas être vaccinées. Cette idée de l'animal soldat sur la première ligne de front de l'attente d'une catastrophe, je propose de la renverser, où c'est pas seulement un problème de biosécurité, où on se protège des menaces, mais c'est aussi une ouverture à la biodiversité, c'est-à-dire que la sentinelle, c'est un animal qui nous rend sensible à la diversité des pathogènes, des relations qui constituent un environnement, des vulnérabilités aussi que nous partageons. Donc c'est le double sens de sentinelle, à la fois soldat qui perçoit des signes et en même temps être vivant, sensible et sentant.
Arnaud Morvan, vous voulez ajouter quelque chose, vous qui avez rencontré les chauves-souris en Australie avec les aborigènes? Vous êtes en ligne avec nous.
Pardon?
Oui, allez-y oui. Arnaud Morvan.
Ce qui est assez intéressant justement au niveau de cette idée de sentinelle, c'est qu'on n'est effectivement pas si éloigné que ça aussi des chauves-souris. Et c'est vrai que quand on vit avec des gens qui vivent à proximité des chauves-souris et aussi avec des soigneurs de chauves-souris, c'est vrai qu'on peut apprendre à lire des signes de manière assez précise sur les chauves-souris. Et ça passe par par une proximité, par apprendre des... À vivre à une distance appropriée avec les animaux.
C'est ça, à quelle distance, à quelle bonne distance, pour eux comme pour nous. Est-ce qu'on pourrait dire finalement que les chauves-souris pourraient être une sorte de miroir pour nous, même si elles vivent à l'envers, même si une sorte de miroir pour nous aussi, Frédéric Keck?
La question que ça pose, c'est la place des chauves-souris dans notre cité. Enfin, c'est une question qu'a posée la philosophe Joëlle Zask, où elle montre que dans certaines villes, comme à Tel Aviv, par exemple, on prévoit des corridors un peu pour les animaux sauvages, notamment les chauves-souris. Et dans les villes australiennes que connaît bien Arnaud Morvan, les chauves-souris se rapprochent parce qu'on détruit leurs habitats. Et tout d'un coup, les urbains qui pensaient que c'était des animaux très éloignés... découvrent les inconvénients en termes de bruit, d'odeur, de vivre avec les chauves-souris. Donc effectivement, ça renverse notre ordre, parce que c'est comme si on passait du domestique à l'extrêmement sauvage. Et en même temps, ça rentre dans notre ordre de vie, ça le bouleverse, ça oblige à savoir quelle place on peut lui faire. Donc effectivement, c'est aux frontières plus seulement symboliques, mais vraiment très matérielles, aussi géographiques, hein, comment on réorganise nos cités.
Notre espace, comment on cohabite, parce comment qu'en fait, il s'agit de ça. Ouais. Il s'agit de cohabiter avec les animaux, enfin, les autres, les non-humains, sauvages ou pas, dangereux ou pas.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a fait intrusion dans leurs habitats, elles rentrent dans le nôtre. En Chine, la révolution culturelle a été l'occasion de déforestation massive, de construction aussi de maisons dans les villages qui ont été occupés par les chauves-souris. Donc c'est une espèce d'aller-retour avec les chauves-souris. On n'est plus deux ordres parallèles. Nos destins sont maintenant mêlés, effectivement, et la pandémie le montre. Hein, c'est pas une révolte de la chauve-souris contre l'humanité, c'est plutôt une question qui nous est adressée de savoir comment on peut vivre ensemble dans une planète vraiment perturbée par l'expansion de l'humanité. Mais l'expansion de l'humanité, si on le rapporte à l'expansion des chauves-souris, c'est effectivement deux expansions qui se sont succédées. Hein. Les chauves-souris, c'est vraiment un ordre de mammifères qui a réussi à occuper tous les habitats. On trouve des fossiles de chauves-souris dans des îles très éloignées du Pacifique. Et elles se sont adaptées à la planète. Et maintenant, il faut qu'elles s'adaptent à cette nouvelle occupation du monde qu'est l'anthropocène ou l'espèce humaine.
D'où l'intérêt que des anthropologues comme vous deux, hein, Arnaud Morvan et Frédéric Keck, et pas seulement, hein, s'allie avec des virologues, des écologues, des biologistes, des philosophes, pour étudier et pour mieux comprendre comment on pourrait, parce qu'on n'a pas le choix, cohabiter avec les autres non-humains sur Terre. Merci infiniment à tous les deux, Frédéric Keck et Arnaud Morvan, d'avoir été en direct avec nous. Je rappelle donc le titre de cet ouvrage collectif, Chauves-souris rencontre aux frontières entre les espèces, paru aux éditions du CNRS, épidémie ou pas, c'est passionnant, inspirant, perturbant, parfois magnifique et trognon, ces chauves-souris aussi, de nombreuses images, photos inédites.
On voudrait remercier la fondation Merlin Tuttle, c'est des photographes des chauves-souris.
Ah mais magnifique.
Qui ont fait des photos magnifiques.
Ah mais merci à la Fondation Merlin Tuttle et sacrée rencontre donc dans cet ouvrage avec beaucoup d'autres humains et non-humains pour cohabiter peut-être un peu mieux ensemble. De quoi en tout cas nous faire réfléchir. Merci à vous.
Merci.
Autour de la question sur internet www.rfi.fr.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à réécouter, à partager et à vous abonner à notre podcast. Ça fait toujours plaisir. Vous pouvez même nous mettre des étoiles. On sera encore plus contents. Au plaisir de vous retrouver, chers amis auditeurs et auditrices, lundi pour d'autres interrogations à partager sur nous-mêmes et sur tous les autres humains, non-humains, sur tous les autres vivants. Tiens, on s'intéressera aux bonnes comme aux mauvaises graines. Vous en saurez plus lundi avec Hugo Violas à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses et Caroline Echowski au micro pour vous servir. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Merci pour votre curiosité, merci pour votre interactivité. Surtout, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, le prochain journal, c'est dans un peu plus d'une minute.
Radio Foot International. C'est une